sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Il est toujours difficile de dater un début. Tout commence toujours avec des balbutiements et se prolonge avec des remises en cause. Alors, s'emparer des ondes radio pour diffuser des messages fut une incroyable aventure. Et pourtant, le 1er septembre 1981, les premières émissions de Radio Libertaire parlèrent à Paris. Anti-autoritaire, anti-capitaliste, anarchiste, une radio entièrement entre les mains de bénévoles, sans dieu ni maître, répandait une soif de liberté. Pas de publicité, pas de chef, et des informations étudiées, examinées, diffusées. Et un grand nombre de pionniers, de volontaires et d'aventuriers de la liberté, pourtant attaqués et même délogés et frappés par la police encore en 1983. 40 ans après ces premières émissions flibustières qui installèrent les programmes de Radio Libertaire, cette émission spéciale de Science en Liberté fête cet anniversaire. Car ce temps des paroles a développé que l'humanité est ce qui se parle et que s'arracher aux séparations, aux discriminations du monde marchand commence toujours par un bavardage entre prolétaires, une discussion qui se réfléchit. La place de la science dans notre projet libertaire ne peut être émancipatrice sans une analyse critique des idéologies qui affectent la recherche scientifique. La pensée dominante reste toujours la pensée des dominants, ce sont eux qui inventent et épurent même notre histoire. Le racisme, par exemple, a longtemps été relayé par la médecine, et la biologie darwinienne a construit un eugénisme atterrant. Ne croyez pas que dans ces années 1980, la science était pure. Non, à côté de chercheurs éveillés et pertinents, gloussaient encore les répliques racistes de Crick, les élucubrations eugénistes officiellement admises de Watson, et bien sûr la longue errance sociobiologique de Wilson, répétant toujours une génétique du grand remplacement. Et c'est dans une certaine confusion que des chercheurs unifièrent les côtés les pires du darwinisme pour proposer une grande explication biologique. L'idée était de considérer les habitudes nauséabondes des sociétés civilisées pour les expliquer naturellement, voire les justifier par des découvertes scientifiques du gène et imposer l'information génétique comme la force toute-puissante. Car n'en doutez pas, braves gens, l'extrême droite est une conception feignante du monde qui préfère toujours les injonctions autoritaires aux doutes méthodiques. Retrouvant les arrière-mondes réactionnaires les pires, la sociobiologie, par exemple, s'est mise à légitimer à coups de conviction et d'interprétation les formes les plus basses de la pensée dominante. Le fascisme des idées inondait le plus souvent la science, car nombre de scientifiques y puisaient depuis le 19e siècle et leur conception marchande et inégalitaire du monde. Bien sûr, cette réponse en forme de rouleau compresseur ne pouvait déjà plus passer aussi facilement. Par exemple, l'arrivée des femmes en biologie a permis que débute une vision féministe, et l'intérêt pour l'écologie ne s'est même pas réduite à la seule défense de l'environnement, mais au contraire, s'est inscrite dans des volontés de sauvegarde et de réflexion sur l'évolution. Car peu à peu, les embarras du darwinisme et des idées préconçues du XIXe siècle rendaient très visibles les errements ambiants. Présentées comme irréfutables, nombre d'affirmations scientifiques ne répétaient encore que des pensées étriquées devenues de plus en plus innommables. Et comme nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, nous allons feuilleter les pages enfin plus critiques de la biologie, celles qui démasquent les enjeux d'une émancipation vraie avec l'outil de la recherche scientifique pour une éducation populaire qui se débarrasse enfin de tous ces anciens démons. Pam 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 Léandre le sot, Pierrot qui d'un saut de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Harlequin aussi cet aigre fin si fantasque, au costume fou, les yeux luisant sous le masque. Do, mi, sol, mi, fa, tout ce monde va richante, et danse devant une frêle enfant méchante, dont les yeux pervers comme les yeux verts des chattes gardent ses appâts et disent à bas les pattes. L'implacable enfant presté relevant ses jupes, la rose au chapeau conduit son troupeau de dupes. Pam 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 pam.
Nous écoutions Colombine de Brassens qui nous rappelle combien les faux-semblants se jouent du monde. Bonjour, nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, Science en Liberté. Alors Thierry, si Radio Libertaire s'est imposée dans les analyses sociales, il fallait encore déloger quelques idées préconçues sur la science.
Eh oui, Siona, c'est grâce à la motivation de quelques bénévoles de la Fédération anarchiste que notre émission scientifique a pu trouver une résonance. Car, en dépit des fièvres émancipatrices qui avaient agité la société dès 68, bien sûr, on s'en rappelle, et puis aussi de ce qu'on a appelé la petite révolution sexuelle, féministe et un peu anti-autoritaire de ces années 70, la biologie, elle, dans les années 1980-2000, restait vraiment emplie de racisme, d'eugénisme. Il était donc vraiment temps d'en parler, et d'en parler d'un point de vue plus libertaire.
Aujourd'hui, nous allons donc voyager d'une idée à une réflexion contradictoire en feuilletant des livres qui ont contribué à déconstruire les idéologies qui infectaient encore la biologie. Mais rien n'est plus simple dans cette fin du XXe siècle, et bien des préjugés scientifiques perdurent encore en 2022. Au premier chef, on a vu peu à peu s'installer une difficile critique sur le côté patriarcal et masculin de la biologie.
Alors en effet, la biologie s'infectait régulièrement en ignorant la réalité du féminisme et des femmes. En fait, on répétait des poncifs en spéculant sur l'activité des mâles et surtout sur la passivité des femelles. Par exemple, les études de biologie du comportement regardaient alors les mâles comme des rivaux ou comme des donjons, tandis que les femelles étaient en général qualifiées de volages, infidèles, voire même capricieuses.
Des caricatures.
Des caricatures tout à fait patriarcales. D'où l'importance de la déconstruction de ces préjugés, et ça exigeait évidemment ça grâce à une introduction du féminisme dans la recherche scientifique. Alors, une grande partie de ce travail a d'abord été initiée par des femmes biologistes, mais qui étaient encore rares en 1980. Elles se sont donc petit à petit imposées dans la science. On peut par exemple penser au travail de Patricia Gowati, celle qui a éclairé et réfléchi sur le rôle de toutes ces épithètes qu'on attribuait aux animaux sauvages femelles. Car même chez les animaux sauvages, tous ces qualificatifs instaurent une sorte de vision hétéronormée et surtout très patriarcale des rôles biologiques. Tout ça directement inspiré par une analyse purement dominée par les fondements du patriarcat humain. Il s'agissait donc toujours de justifier des inégalités, et après on a même eu des études physiologiques qui ont cherché à démontrer que les cerveaux féminins étaient plus petits ou moins efficaces, ou au minimum orientés sur l'élevage et sur les tâches domestiques. Or, Patricia Gowati va nous expliquer que les mots choisis en biologie en 1980 notamment n'étaient pas neutres, et que ça affectait les femelles à un rôle domestique. Donc il était grand temps de modifier ce point de vue parfaitement rétrograde.
Et d'ailleurs, Patricia Gowati, en rectifiant les mots, a enfin introduit la possibilité d'études biologiques rendant compte d'activité des femelles.
Oui, pour la première fois, on s'apercevait que les êtres vivants étaient partagés en mâles et en femelles, et que les femelles avaient un rôle évolutif important. On a même petit à petit attribué à ce rôle féminisme une importance cruciale, puisque le choix sexuel qui pouvait générer l'évolution des espèces était déterminé principalement par les femelles. Alors dans son livre de 97, Feminism and Evolutionary Biology, elle inspecte les frontières, les éléments croisés entre féminisme et biologie évolutive pour montrer à quel point le caractère patriarcal était inscrit dans les premières biologies. Donc, elle commence par travailler, par exemple, sur le rôle des gènes dans l'expression du comportement et de la culture humaine. En travaillant sur ce rôle des gènes, elle s'aperçoit que rien n'est absolument indiqué de manière définitive, que rien n'est vraiment terminé dans cette question, et que bien au contraire, la porte est ouverte à beaucoup d'interprétations sur ce que sont les gènes et comment les femelles peuvent essayer de contribuer à l'évolution à travers leurs éléments génétiques. Et puis, une grande partie du livre est aussi travaillée sur la société moderne, y compris chez parfois de nombreuses féministes, qui montrent beaucoup de méfiance à l'égard de la science et du discours scientifique. Ça résulte souvent d'une sorte, dit-elle, d'analphabétisme scientifique qui conduit à des compréhensions très très superficielles de la nature et de la science. Elle critique également le fait qu'on ignore une grande partie des processus darwiniens fondamentaux dans les populations contemporaines. Elle pense principalement aux États-Unis. Alors elle pensait, elle, que les deux obstacles n'étaient pas tout à fait liés et que le darwinisme pouvait être épuré de toutes ces questions. Mais en fait, on s'est rendu compte que, à travers l'imaginaire masculin des sociétés, les nouveaux dialogues qui vont être créés entre les mâles et les femelles, bien qu'il y ait des interfaces féministes et de la biologie évolutive qui continuent à se faire, s'écartent encore un peu de tout ce qui est biologie évolutive. Et surtout, on a toujours des apologistes de Darwin qui vont continuer à essayer de rétablir les frontières anciennes. Donc, il fallait évidemment, dans ces batailles frontalières, faire un pas pour essayer de comprendre ce que la biologie évolutive devait aux femmes. Il s'agissait, par exemple, d'épurer la biologie de tout ce qui était fantasmes patriarcaux, hein, qui datent de la nuit des temps, et qui se sont construits à travers des idéologies marquées par des siècles de pensée traditionnelles. Au premier chef, il s'agissait donc d'analyser les termes du patriarcat qui pèsent sur la science. Alors notamment, elle a travaillé sur ça en délogeant des mots, tous ces mots qui étaient systématiquement attribués aux femelles, par opposition aux termes et aux vocables beaucoup plus raisonnables attribués aux hommes. Et puis petit à petit, on a montré que l'usage social se répétait en répétant des a priori, mais finalement, on est passé à une période particulière où l'importance des femelles dans l'évolution a commencé vraiment à se faire sentir. On a même fini par attribuer l'évolution comme quasiment le résultat d'un caprice féminin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée des femmes a réussi à bouleverser le point de vue patriarcal. Mais c'est l'arrivée des femmes en science. Il a donc fallu que des femmes fassent des études, travaillent sur la biologie, pour petit à petit commencer à bouleverser le point de vue patriarcal. Alors ces idées mettent quand même énormément de temps à s'imposer, puisque même un chercheur comme Pascal Pic, par exemple, en 2020, expose encore le besoin de redonner aux femmes et aux biologistes une nouvelle perception qui soit enfin plus féministe de la biologie.
D'ailleurs, que dit Pascal Pic dans son livre sur « Et l'évolution créée à la femme en 2020 ?» C'est vrai que c'est un titre annonciateur.
C'est un titre annonciateur puisqu'il découvre que finalement l'évolution va commencé, grâce au féminisme, à découvrir l'importance des femmes dans la biologie évolutive. Mais ça reste quand même une découverte un peu tardive en 2020. Mais elle est importante, parce que l'analyse féministe s'est transformée, elle a bouleversé une grande partie de la science. Ce livre arrive un peu tard en France, mais il a le mérite de s'avérer assez percutant. Bon, il faut avouer que j'avais déjà pas mal soulevé dans La guerre des sexes chez les animaux l'importance de la pensée féministe, et notamment de Patricia Govati.
D'ailleurs, tu avais la préface de
Patricia Govati
sur ce livre. Oui.
L'importance de faire intervenir les femmes en biologie. Il faut bien comprendre que même au début des années 2000, ça restait encore quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, évidemment, en 2020, on pense que c'est quelque chose déjà de réalisé, mais ce n'est toujours pas le cas. Bon, le livre de Pascal Pic est quand même très percutant, car il annonce bien des choses sur la réalité, la différence entre les hommes et les femmes, même s'il base ça sur une sorte de perception ontologique. Hein. Les mâles seraient forcément le sexe coercitif, et les femelles forcément le sexe qui serait dominé par les mâles. Donc en cela, il redécouvre, vous voyez,
le rôle passif et le rôle actif des mâles.
Voilà, il retrouve des livres anciens sur la domination féminine, par exemple. Et les regarde enfin comme par contre des éléments essentiels de la pensée, alors que jusqu'à présent c'était considéré encore par de nombreux biologistes comme quelque chose de très accessoire. Donc il insiste sur les coercitions et les violences sexuelles de l'homme qui sont regardées comme un générique de la domination. En tant que mâle, donc le mâle aurait réussi à asseoir sa domination sur la vie sociale, et c'est pour ça qu'il aurait petit à petit transformé son histoire et qu'on insiste, qu'on voit comme cela comment la cécité sur les femmes a marqué l'idée même qu'on se faisait d'évolution. Pascal Pic démontre combien cette vision machiste a occulté l'importance des femmes, alors surtout évidemment dans les études anthropologiques, mais aussi sur le front biologique avec des chercheuses nouvelles qui vont commencer maintenant à imposer un autre point de vue qui va être beaucoup plus subtil. En revanche, évidemment, c'est pas toujours gagné, il y a beaucoup de femmes qui vont restaurer également le patriarcat, et il ne s'attarde pas non plus sur l'importance de ces pressions patriarcales. Il rectifie par contre la préhistoire et rend aux femmes leur place en tant qu'actrices dans la préhistoire.
Et oui, elles ont existé comme les hommes, donc qu'est-ce qu'elles ont fait?
Alors qu'on a toujours découvert que l'homme de ceci ou l'homme de cela, on voit que la présence des femmes a quand même été importante. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'on revient de périodes pionnières, où par exemple quelqu'un comme Alain Testard, dans son livre sur les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités en 82, ou surtout sur le livre La critique du don, qui était fait sur les circulations non marchandes, là encore édité en 2007, qui étudie comment dans ces premières sociétés agro-pastorales, on a pu voir que petit à petit s'imposait en fait la détérioration de la condition des femmes. Ça, c'est important parce que dans la préhistoire, sur les derniers chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit que la division sexuelle du travail n'est qu'une idéologie. On présupposait évidemment que les hommes étaient des chasseurs, que les femmes faisaient la collecte, mais toutes ces présuppositions-là ne résistent pas à l'analyse des faits, d'une part, et d'autre part, évidemment, elles ont empesté la biologie au point que tout le monde pense que c'est comme cela que les choses se sont passées.
Oui, c'est une question d'interprétation, en fait, biaisée du fait que aussi, peut-être, pas mal de chercheurs étaient des hommes.
Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que ces fondements de la division sexuelle du travail, entre guillemets, chez les chasseurs-cueilleurs, a été complètement biaisé. Évidemment, c'est biaisé, mais en même temps, on y retrouve d'autres éléments. Il faut vraiment attendre les sociétés agro-pastorales pour voir s'imposer cette différenciation du travail. En même temps, Testard avait analysé dans la même optique une nouvelle définition du don comme cadeau, et il faisait quelques différences entre le don et l'échange, mais pour lui, le don attendait à une réciprocité, un peu comme l'échange. Et il y voit quasiment le don comme à l'origine de la société marchande. Mais en proposant également une régularité des cadeaux, une régularité de la recherche des cadeaux entre les individus et les remises, il nie en quelque sorte cela. La grosse différence, c'est par exemple que lorsqu'on invite des gens à manger, on ne fait pas du don en soi, mais on fait une sorte de cadeau, on mange ensemble, on restaure de la situation sociale tout en ne se préoccupant pas de combien coûte notre repas et combien on va faire payer à chacun des convives. Mmh. Donc on voit qu'il ne s'agit pas d'une situation marchande, mais d'une situation qui dépasse complètement la situation marchande, qui la transcende au demeurant, mais qui permet aussi de réaliser ce que les êtres humains font ensemble, c'est-à-dire des relations sociales.
Et donc ce travail, il y a eu un travail de déconstruction finalement au fur et à mesure
Des années 81. Hein, on retrouve ça avec, par exemple, l'anthropologue américaine l'affaire Dri.
Dri.
Elle est très difficile à prononcer.
Oui, voilà, elle a écrit un fameux livre en 2001, La femme qui n'évoluait pas.
Oui, La femme qui n'évoluait pas. Pour bien mettre en évidence l'idée que les femmes étaient absentes, a priori, de la préhistoire, parce que les hommes qui analysaient ça, les scientifiques qui analysaient ça, ne la voyaient jamais. Comme je vous le dis, on parle de l'homme de Pékin, de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon.
Oui, donc en fait, Sarah Ardrey a essayé finalement de déconstruire des études dites de sociologie qui continuaient à affecter à la femme un rôle passif, justement le plus souvent, finalement, le patriarcat.
Oui, parce que dans la tête des réactionnaires, le patriarcat est quelque chose d'essentiel qu'il faut essayer de rétablir dans la mesure où, pour eux, c'est la nature du monde. On voit très bien cette tentative réactionnaire qui consiste à rechercher des vieux arguments, tous plus passés les uns que les autres, mais en réinventant une histoire, ou du moins en essayant de conforter ce que l'histoire patriarcale nous a raconté dans notre tendre enfance. Alors, dans son livre, Sarah Ajdri s'étonne déjà que tout ce qu'on trouve comme reste humain dans le monde se soit en général attribué à des hommes. L'homme de Pékin, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Et donc, elle relève combien le corps des femmes reste ignoré dans les restes préhistoriques, alors que, visiblement, on a des femmes, ne serait-ce que Lucie, bien sûr, chez les Australopithèques. Découvrant l'importance que ces femmes pourraient avoir, elle s'aperçoit qu'en fait, c'est tout à fait partagé entre hommes et femmes dans ces recherches, d'analyse préhistorique. Et puis ensuite, elle va essayer de travailler pour savoir comment les chercheurs attribuent au développement de la culture humaine d'abord un côté masculin. Ce seraient les hommes qui seraient à l'origine de la culture humaine. Évidemment, elle nie cela, supposant même que le langage puisse provenir des pensées féminines dès le départ, de quelques femelles d'Australopithèque qui auraient pu travailler davantage sur ces questions du langage, ce qui n'est pas tout à fait conforté hein, par les études naturalistes, c'est plus compliqué que ça apparemment. Mais traditionnellement, on octroie toujours les activités de chasse ou de découverte aux hommes, et on relègue les femmes à des travaux de nettoyage, ou alors de collecte ou d'élevage des enfants. Alors que rien dans la production des outils ne montre que les hommes, ou ne vont conférer aux hommes, la garde du territoire ou de la chasse. Mais comme il semblait normal que le silex taillé sorte de l'ingéniosité d'un cerveau masculin, évidemment, on a commencé à penser que les hommes étaient les êtres dominants de la société depuis les tout débuts. Là aussi, on a cherché des références naturalistes à cela, qu'on a trouvé chez certains grands singes. D'autres grands singes, évidemment, contredisaient les éléments. Quant à la domination des mâles en biologie chez les espèces animales, elle est quand même relativement modeste par rapport à l'énorme domination socioculturelle que les humains, eux, se sont imposés. On voit aussi apparaître ici ces éléments, des éléments de religion, ce qui n'est pas un hasard si dans la plupart des sociétés préhistorique, on attribue toujours à un sens religieux quelque chose, puisque ce sens religieux, on le sait très bien, va petit à petit instaurer les sociétés patriarcales totalement résignées à leur propre sort. En fait, on s'aperçoit tout de même que les grandes découvertes comme le feu, les armes de jet, ou encore même les peintures rupestres, ont toujours été d'abord attribués à des hommes. On sait maintenant que c'est faux, que les femmes participaient à ces activités-là. Au lieu de réduire la femme à une non-existence, elles participaient bien évidemment des premières communautés humaines.
Et oui, et cette absence de femmes, c'est donc parfaitement accepté par la science des origines, et finalement, c'est ce que Ardrey remet en cause.
Tout à fait. En fait, il est important pour Ardrey de bien montrer que l'absence des femmes n'est pas une relégation naturel, mais au contraire une relégation volontaire par des explications patriarcales. Et pourtant, il faut bien voir que même si cette science des origines tire principalement sa force de ce patriarcat, ça continue d'exister. Par exemple, on a un reportage assez récent sur la 2 qui va accorder aux humains préhistoriques et donc aux hommes préhistoriques la découverte du feu, la découverte des outils, la découverte de la chasse, de l'organisation sociale et même de la défense du territoire, tout ça accordé aux seuls hommes. Et ajoute même, alors là c'est vraiment le plus qui n'avait jamais été osé jusqu'à présent, que ce serait un homme qui aurait découvert l'agriculture. Pourtant, on admet généralement, traditionnellement, que l'activité agricole pourrait venir des premières femmes. Jusqu'à présent, c'est absolu. Mais là, dans ce reportage, non. Le patriarcat est tellement imposant, il veut tellement imposer sa vision des choses, que finalement, tout ne dépendrait que des hommes. Alors, il n'y a évidemment aucune preuve paléolithique qui va dans ce sens. On ne confirme ni le rôle primordial des mâles, ni chez les Australopithèques, chez Homo erectus, ni dans l'invention des outils, ni dans le feu. À chaque fois, évidemment, ces découvertes ont été faites par les communautés elles-mêmes. Mais l'histoire racontée à l'époque, qui était complètement imprégnée de l'histoire racontée par les historiens, donc la préhistoire racontée, fait finalement toujours la part belle au masculin, en exposant toujours bien plus l'état de nos préjugés que la réalité des avancées de la science.
Oui, d'ailleurs, dans son dernier chapitre, Sarah Blaffer-Hardry souligne que l'enjeu de la violence et de l'oppression sociale dont sont victimes certaines femmes peut s'expliquer dans le cadre de la théorie évolutionniste par la recherche du contrôle de la descendance, tant par les hommes que par les femmes du groupe social. En fait, il ne s'agit pas de généraliser aux hommes, tous mauvais, mais de comprendre quels sont les enjeux.
C'est là le gros avantage qu'a Sarah Blaffer-Hardry sur quelqu'un comme Pascal Pic, par exemple. C'est qu'au lieu d'en faire un terme générique, elle utilise ça dans le cadre des contraintes et des oppressions qui s'exercent dans la vie sociale. Et elle essaie de comprendre quelle est la finalité de cette organisation sociale. Alors elle appelle à une prise de conscience, parce que c'est par la prise de conscience de ces fonctionnements sociaux et biologique, que la condition des femmes pourrait en effet progresser en leur donnant la nouvelle image qui soit, elle, plus proche de la réalité des faits. En 99, par exemple, elle publie Les instincts maternels, où elle montre et elle propose que l'instinct maternel et les comportements des mères envers leurs enfants soient régis par des mécanismes biologiques qui seraient partagés avec tous les animaux et avec les primates. Mais elle ne décrit pas l'instinct maternel comme quelque chose d'inné. Elle travaille au contraire à montrer qu'il s'agit d'un mécanisme collectif dans une communauté humaine qui permet de se développer, en même temps que ça développe évidemment un rôle particulier et un peu passif encore chez les femmes des origines.
D'ailleurs, Claudine Cohen, en 2003, dans La femme des origines, souligne que l'homme préhistorique est aussi une femme. C'est une évidence qui n'avait pas tellement effleuré les premiers préhistoriens, et la question de la place et du rôle de la femme est longtemps restée marginale dans les enquêtes sur la préhistoire. On évoque d'ailleurs surtout l'homme préhistorique, artisan, chasseur, artiste, conquérant, et puis la femme, elle est souvent considérée comme tristement passive, reproductive, reproductrice, et livrée aux fantasmes, aux mythes inspirés de la Bible, ou au lieu commun colporté depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, la célébrité d'ailleurs de Lucie et l'Ève africaine témoignent d'un intérêt nouveau pour l'existence des femmes depuis les époques recalées du paléolithique. En fait, Claudine Cohen s'intéresse à cette actrice essentielle du monde de nos origines et elle essaye de donner une visibilité à cette moitié de l'humanité prétendument invisible aux archéologues. En fait, cet ouvrage illustré qu'elle a écrit par des très belles photos interroge de façon très critique l'histoire des idées et des preuves, en particulier celles tirées des représentations des femmes dans l'art préhistorique, pour en fait tenter une autre image de notre ancêtre.
Oui, c'était très important de réussir à dessiner un peu quel pouvait être le rôle des femmes. Et là, en travaillant sur les artistes, sur l'ensemble des preuves qu'on a de la présence des femmes dans la préhistoire, elle bouleverse en quelque sorte le paradigme dominant du mâle patriarcal dès la préhistoire.
D'ailleurs, c'est écrit par des femmes, finalement.
Qui sont intervenues pour effectivement réussir à illustrer beaucoup mieux ce qu'était la préhistoire. Cela dit, on n'a ni des preuves dans un sens, ni des preuves dans l'autre. Ce qui permet de faire croire que la division naturelle du travail par le patriarcat serait quelque chose d'absolument naturel, donc justifiable et justifié. Alors que dans la réalité, quand même, la plupart des sociétés animales sont beaucoup plus matriarcales que patriarcales, et qu'on voit très bien que dans les errances du patriarcat, on a pu conduire à un mécanisme de domination tout à fait inopérant, et qui surtout nous cache une grande partie du passé. L'idée de rendre invisible quelqu'un, les femmes, les Indiens, les cultures africaines, etc., sont évidemment très importantes pour réussir à imposer la domination et notamment la colonisation.
D'ailleurs, au niveau des races, c'est aussi quelque chose qui où on essaye de faire des analyses un peu différentes. Il y a André Langanet qui a...
Alors, c'est un peu des tentatives qui vont forcément échouer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on on croit que dans le mot racisme, on invoque l'idée de race. Alors, c'est vrai que la biologie a essayé d'imposer tout ça, et Langanet, dans son livre, réfute génétiquement ce concept de race biologique. En fait, il n'existe aucun marqueur génétique d'une race, et les prétendues races humaines ne sont en fait qu'un concept de discrimination. Ça, c'est évidemment un point important qui est maintenant bien reconnu par la biologie depuis la fin des années 80. Mais le fait que les races n'existent pas n'empêche absolument pas le racisme. Le racisme ou le colonialisme sont les deux armes d'un même outil. On peut très bien générer des boucs émissaires, et c'est ce que font une grande partie des fachos et des réactionnaires, en prétendant que certains individus, certains groupes seraient différents ou inférents les uns des autres. On s'aperçoit par exemple de la tentative pour essayer de détruire totalement les juifs, qu'il a fallu considérer comme une race, hein. Évidemment ça n'a aucune existence en soi, mais on s'aperçoit aussi que cette tentative peut être faite, y compris par un juif à l'heure actuelle. Donc on voit très bien que ces mêmes éléments de racisme sont moteurs d'une construction réactionnaire du monde, dont la tentative est de nier la communauté humaine. L'objectif, c'est de faire que les individus soient inscrits dans un capitalisme d'exploitation, et à travers ce capitalisme d'exploitation, on va de toute façon définir un tel contre un tel, ou un tel contre un tel, en inventant des groupes ethniques, et en justifiant ces groupes ethniques par leurs caractéristiques, non pas ethniques, hein, mais leurs caractéristiques le plus souvent culturelles. Les cultures se définissent toujours les unes par rapport aux autres. Alors ça peut être évidemment un parti pris de biodiversité, d'intérêt, pour essayer de partager des communautés humaines. L'autre parti pris, c'est au contraire un parti pris de haine et de refus dans le but d'exploiter l'autre. Hein. On a été raciste contre les Indiens d'Amérique, d'abord parce qu'il fallait, comme le montre très bien Dee Brown dans son livre d'ailleurs « Enterre mon cœur à vous donne ni », parce qu'il fallait très bien montrer qu'on allait exploiter les Indiens, qu'on allait leur voler leurs terres. Les Amérindiens d'Amérique ont donc été condamné en quelque sorte au nom de ce racisme, avec la fameuse phrase bien connue « Il n'y a pas d'autres bons Indiens qu'un Indien mort ». On voit bien qu'il y a une volonté d'extermination qui s'est faite sur les Indiens, et que du coup on a inventé le terme de race indienne, on a considéré l'hypothèse d'une sorte de groupe race indienne pour essayer d'exterminer. Sachant que l'extermination commence toujours par le meurtre objectif, le vol des terres et des possibilités d'installation d'un peuple, et puis ensuite on va dénaturer ce peuple à coup de en lui apprenant la langue officielle, en l'interdisant de pratiquer ses propres coutumes, et puis les derniers reliquats de ce peuple seront gardés dans des réserves jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est le même principe que les ghettos, bien entendu, dans le cadre du racisme des État nazi, par exemple. Donc on voit très bien que tous ces éléments-là participent uniquement de rapports de domination du monde dans le but de le coloniser. Donc Langanet, dans Les hommes passés, présents, conditionnels, par exemple, en 89, a déjà mis en garde cette analyse des sociétés humaines, alors qu'elles se sont différenciées par des adaptations à des environnements différents et par leur langue, et que les hommes se sont singularisés grâce à cette langue au milieu des autres animaux. Dans toutes les populations de la préhistoire, il y a un groupe unique qui vivait quelque part entre l'Éthiopie et le Moyen-Orient, ou encore la péninsule indienne, et c'est de ce groupe qui, il y a environ 100 000 ans, va donner naissance à toutes les populations humaines actuelles, par petits coups, avec vagues successives, et donc tout cela va considérer des pratiques culturelles qui vont de petit à petit varier. Bien comprendre aussi que ces pratiques culturelles vont s'additionner les unes aux autres, se mélanger, se créoliser, si on préfère, et donc ce système particulier d'échange, chez les Grecs absorbés par les Romains, etc., on va retrouver ça même dans les grandes civilisations de domination politique et militaire, et on va voir que c'est beaucoup plus varié, ces éléments-là, que leur caractère physique ou leur caractère génétique. Parce que, quel que soit leur caractère apparent, leur phénotype ou leur caractère génétique, tous les humains aujourd'hui descendent exactement des mêmes ancêtres, relativement tardifs déjà, et dans une préhistoire qui est très courte à l'échelle de l'évolution de la planète. Donc le livre de synthèse de André Langanet explique comment toutes les découvertes sur la génétique de la diversité des hommes et des fossiles humains, connus à ce jour, hein, vont démontrer des résultats qui ne collent pas du tout avec l'hypothèse qu'on se faisait de la répartition des gènes dans les différentes cultures. Bien au contraire, la répartition des gènes à la surface de la planète permet de reconstituer l'histoire de mouvements, mais de mouvements incessants de populations du passé, avec constitution de nouvelles communautés, et bien entendu, avec des approches culturelles, et aussi, évidemment, des approches sexuelles entre les différents peuples.
Et oui, tout un mélange. Donc, finalement, depuis les années 80, Tout ce que l'on pensait de l'histoire de l'humanité et des relations entre les populations humaines s'en est trouvé bouleversé.
En grande partie bouleversé. Et c'est aussi la vitesse de ces découvertes-là et de ces déconstructions qui permet aux réactionnaires de se dire maintenant, oh là là, mais on va trop vite, on réduit tout, ce qu'ils disent n'est pas vrai, et qui vont même commencer à essayer de réfuter des choses qui sont pourtant parfaitement maintenant assimilées par la science. Et on voit ces tentatives de réaction pour essayer de faire appel, hein. Ils ont tellement peur ces gens-là qu'il faut faire appel à une sorte d'ordre ancien pour pouvoir réussir à construire la société moderne et baser notre société moderne sur cet ordre ancien patriarcal qui viendrait quasiment du divin. Ces éléments importants pour restaurer en quelque sorte ces éléments-là vont se développer un peu partout sur la planète Terre au point... On sait très bien maintenant que ce sont les humains, on va dire entre guillemets, occidentaux, de race blanche, quoi, tout ça, qui vont avoir entrepris cette grande entreprise de colonisation du monde. Et au lieu de parler de colonisation du monde, on va parler de la découverte de terre, vous voyez.
Donc, civilisation.
Voilà. Alors, on découvre, mais au fait, au lieu de les découvrir, on les détruit, ces civilisations, ouais. Puisque l'objectif était évidemment un objectif colonisateur. Oui, l'homme blanc est responsable de la colonisation, pas que lui, hein. On va retrouver ça chez des peuples arabes, on va retrouver ça en Inde, on va retrouver ça un peu partout, mais à chaque fois, l'histoire étant évidemment l'histoire des dominants, elle va être racontée par les dominants en essayant d'attribuer le rôle le plus actif et le plus sympathique à cette œuvre, entre guillemets, de colonisation, qui est en fait une œuvre de pillage des ressources naturelles du reste du monde.
Il y a un livre écrit par Morange, hein. Il me semble, sur la vie, l'évolution et l'histoire. Est-ce que tu peux en dire plus?
Oui, il est paru chez Odile Jacob, ce livre de Morange en 2011, « La vie, l'évolution, l'histoire ». Alors, c'est un livre déjà très tardif, hein, de Michel Morange, pardon. C'est un biologiste moléculaire, mais c'est aussi un historien des sciences. Il est très épistémologue. Et donc, il va prolonger la réflexion qui a été conduite dans « Les secrets du vivant » en essayant de reprocher, c'était un livre de 2005, « Les secrets du vivant », contre la pensée unique en biologie. On voit très bien que la tentative de Morange, c'est d'essayer de réintroduire à l'intérieur de la biologie des explications qui soient beaucoup plus liées aux faits. Mais ces tentatives les plus rigoureuses, qui veulent aller jusqu'à la réplication de l'ADN, la nature du code génétique, etc., sont aussi le produit d'une histoire sur l'évolution. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains embrouillés dans leurs propres a priori qui vont petit à petit déterminer ça. Or, Morange va nous faire comprendre qu'il y a une part de contingence dans l'évolution. Et cette contingence reste pour l'instant invisible, même à l'analyse fonctionnelle. Alors qu'il faut comprendre ce que c'est que cette contingence. Qu'est-ce que la contingence par rapport au hasard? C'est assez facile à comprendre. Dans le hasard, par exemple, si vous lancez une série de dés, à chaque fois, vous pouvez vous attendre, à chaque fois que vous lancez par exemple 3 dés, ben, vous pouvez vous attendre à faire un 2-3. La fois d'après, vous pouvez encore faire un 2-3, et la fois d'après, encore une fois un 2-3. Évidemment, la probabilité s'amenuise au fur et à mesure que les premières sorties indiquent cela. Dans la contingence, c'est l'inverse. Les probabilités vont augmenter. C'est l'idée du clou rouillé qu'on fixe à un fer à cheval. Le cheval va donc être gêné par ce clé, par ce fer à cheval, voilà, qui pourra lâcher. Si ce fer à cheval lâche, le cheval peut tomber. Du coup, il va faire tomber son cavalier, qui lui-même transporte un message qu'il ne pourra pas apporter au général.
Ah, les conséquences sont terribles.
Voilà, et le général va perdre la bataille. On s'aperçoit que l'évolution, c'est de la contingence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu d'avoir des probabilités qui se réduisent, elles s'agrandissent dans d'autres domaines. Elles deviennent de plus en plus fortes. C'est un peu comme le cas d'un accident. Si vous n'aviez pas sorti de chez vous ce jour-là, si vous n'aviez pas raté la marche...
Voilà.
Si on ajoute... Dans un accident, c'est ça. C'est une série de choses plus ou moins improbables ou plus ou moins probables qui vont se réunir pour former quelque chose qui va arriver de manière inéluctable. On peut dire que la contingence est parfaitement prévisible dans ce sens-là, même si effectivement elle est totalement imprévisible, car on ne sait jamais à quel moment les choses vont se passer, on ne sait jamais si elles vont impliquer cela ou si finalement l'accident sera dérisoire. Pour bien comprendre cela, comme l'écrit Morange, la dimension historique de la vie résiste aux simplifications et aux unifications qu'on essaie de faire en biologie. Donc pour comprendre cette dimension historique, il faut évidemment faire comprendre que c'est une histoire évolutive, une histoire naturelle, et bien quelque chose de contingent. Alors, c'est moi qui rajoute cette explication de la contingence sur le livre d'Homme Orange, mais ça permet de mieux comprendre.
C'est vrai que c'est une autre manière en fait, d'aborder l'évolution aussi. En fait.
Pour à partir des faits, en recréant quelque chose. Et ça, évidemment, si la biologie s'inspirait de cette idée d'une histoire qui n'est jamais recommençable, à aucun moment donné on peut la refaire, elle est faite une fois pour toutes et elle changera à chaque fois, eh bien si on considérait bien la biologie comme une histoire, on surmonterait beaucoup d'obstacles qui demeurent en fait pour l'instant dans l'essence du vivant, en considérant que les débats théoriques qui agitent la biologie sont en fait des débats qui sont souvent stériles parce qu'ils opposent des a priori à d'autres conceptions souvent erronées du monde. Alors donc, après avoir posé les termes du problème dans ses ouvrages, il essaie de dessiner une manière de faire de la recherche nouvelle en s'inspirant de la manière dont on résout les obstacles épistémologiques en histoire. Alors, évidemment, c'est un passage un peu obligé pour tous les chercheurs. Il faudrait que tout le monde relise un peu Morange.
Et en fait, pour poursuivre différence homme-femme, nos cerveaux, ils diffèrent ?
Entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est une vaste question qui a largement inspiré les scientifiques. Évidemment, selon la mesure qu'on prend, on peut parfaitement dire que les femmes ont un cerveau plus petit, un cerveau moins bien fait, ou au contraire, un meilleur cerveau, un cerveau mieux fait. Ça, c'est le grand objectif de la psycho-évolutive, de la psycho-évolutionniste, la psychologie évolutionniste, qui reprend en fait les vieilles idées du 19e siècle sur les bosses du cerveau et toutes ces recherches un petit peu empirique, mais surtout très inutile. L'objectif était de montrer que le cerveau était différent. Or, on a déjà, dès 2013, Jean-Didier Vincent, par exemple, et Liedo, qui, dans Le cerveau sur mesure, vont écrire que non, notre organe n'est pas un organe figé une fois pour toutes, et que quand nous devenons adultes, il continue à évoluer en fonction de notre histoire, de notre culture. En fait, le cerveau féminin, tout autant que le cerveau masculin, est évidemment compétent pour travailler sur son histoire, et même si il y aurait des tentatives pour les différencier, ça s'avère impossible en biologie, dans la réalité des cas. Il n'y a pas de marqueur masculin ou féminin de la pensée, de la réflexion, et c'est juste des questions de domination sociale.
Mais il y a encore des femmes inquiètes.
Parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec notre armure. Je l'ai faite verser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. De la prendre, une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant, et c'était pas la fête tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. J'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma stature. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma stature. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam.
C'était La femme du soldat inconnu par les Famos. Bonjour à vous, vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire dans une émission sans Dieu, sans maître et sans publicité, science en liberté. Alors Thierry, le moins que l'on puisse dire est que la biologie a imposé un modèle darwinien de l'évolution, une sélection naturelle des bons contre les mauvais. L'évolution est devenue une sorte de bataille où les perdants disparaissent définitivement ?
Eh oui, c'est comme cela que Darwin a été réinventé, inventé par le néo-darwinisme, en prenant quelques-uns de ses concepts les plus simples et en affirmant que c'était des concepts absolus qui résolvent tout. En fait, actuellement, dès qu'on voit quelque chose, y compris pour cette question des virus, par exemple, tout de suite on a dit « Ah, c'est un effet de la sélection naturelle ». Or, cette sélection naturelle est loin d'être prouvée, non seulement elle est loin d'être prouvée, mais elle ne constate qu'un seul fait, il y a des combinaisons génétiques qui fonctionnent, d'autres combinaisons qui ne fonctionnent pas.
D'ailleurs, si on veut revenir un peu au fond de Darwin, il y a un livre Bowler qui a écrit quelque chose à ce sujet.
Alors oui, le vrai fond de Darwin a été surtout écrit évidemment par les premiers chercheurs comme Mayer par exemple, qui ont essayé de développer le darwinisme. Il y a pas mal de livres de Mayer en français. Le livre de Bowler de 1995, qui s'appelle tout simplement Darwin, est plutôt un travail d'historien de la biologie. Alors, il est surtout connu en France parce qu'il a travaillé sur la biographie de Charles Darwin, et il revisite en fait quelques implications politiques et sociales du darwinisme, mais comme il reste toujours dans cette idée centrale que Darwin a lutté contre le créationnisme, alors que c'est un peu l'inverse, hein, c'est un peu les darwinistes qui ont inventé le créationnisme pour pouvoir avoir un ennemi contre qui lutter, et pour donner à Darwin l'importance capitale dans l'évolution et essayer de réduire à néant le pauvre Lamarck. On voit bien que ce travail de Bowler, Darwin, n'apporte finalement pas grand-chose, n'a pas beaucoup d'intérêt.
À propos toujours de Darwin, on a aussi Pierre Jouventin qui a écrit sur la face cachée de Darwin. En fait, qu'est-ce qui est caché d'après lui alors ?
Alors, la face cachée de Darwin, pour lui, c'est le thème de l'animalité de l'homme que Jouventin essaie de décrire. Donc, c'est un livre plutôt inspiré, hein, qui cherche à démontrer l'actualité du néo-darwinisme tout le temps, en reprenant tous les poncifs du néo-darwinisme comme étant des éléments absolument prouvés. Et il tente de réfuter les intentions eugénistes de la sélection naturelle, en essayant de montrer que Darwin était non raciste, un grand bon père de famille, etc. On a donc deux types d'arguments, des arguments entre guillemets placés sur le thème du scientifique, qui reprennent presque qui sont dans la continuité de l'idée de Darwin comme inventeur de la sélection naturelle et comme inventeur de l'évolution, et puis d'autre côté des thèmes qui vont venir dans la vie privée de Darwin pour essayer de nous prouver le mieux possible que Darwin était un bon père de famille, etc., et que c'était pas très très gênant si c'était un grand propriétaire terrien et qu'il possédait pas mal d'argent. L'idée de rattachement des idées darwiniennes au capitalisme de l'époque, il se passait complètement sous silence.
Donc c'est une certaine perspective. Alors, à côté, on a une interprétation différente avec André Pichot.
Ah oui, André Pichot va nous livrer effectivement une interprétation bien différente, notamment dans son livre de 2000, donc bien avant le texte de Jouventin, de la société pure de Darwin à Hitler, chez Fondarion.
Après, puisque c'est en 2000 et Jouventin c'était en 2014.
Tout à fait. Donc déjà, dès les années 2000, on avait Pichot qui s'est interrogé d'une manière très épistémologique sur l'idée de cette société particulière. En fait, pour Pichot, l'eugénisme et le darwinisme social ont fait la force du darwinisme lui-même. C'est-à-dire que c'est parce que le darwinisme social et l'eugénisme étaient partagés par beaucoup de biologistes juste avant la Seconde Guerre mondiale, même si ça a perduré jusque dans les années 1980, c'est parce que donc les biologistes étaient eux-mêmes eugénistes qu'ils ont pu pousser les pays occidentaux a développé des législations très eugéniques, a développé une théorie eugéniste qui, effectivement, va entraîner, on le sait, d'un point de vue industriel, des centaines de milliers de morts pendant le Troisième Reich, qui a appliqué ces théories totalement eugénistes. Pour André Pichot, ces scientifiques ont essayé de faire oublier cet eugénisme après la guerre, car évidemment, sous l'impulsion du darwinisme, l'eugénisme et le racisme ont fait l'objet de théories scientifiques à la fin du 19e siècle, principalement d'ailleurs développées par Hans Haeckel, et qui ont développé tout un ensemble de récits historiques sur la biologie. Et on a donc réinventé en quelque sorte la biologie, et la génétique et la biologie moléculaire ont continué cette influence que l'eugénisme a eue et le racisme ont eue sur la biologie. Donc il montre bien à quel point ces éléments sont liés en faisant une analyse de l'histoire des idées qui ont mené la biologie moderne avec comme fil directeur l'idée que l'être vivant n'était qu'une machine à la manière de Malebranche, à la manière d'en parler comme le faisait Malebranche ou un peu comme l'a instauré cette vision mécaniste de Descartes. Alors qu'en fait, évidemment, toutes les explications sont ramenées à la machine. Ce sont des explications biologiques qui prennent la machine comme exemple. Donc, que Descartes prenne à l'époque des poupées mécaniques comme étant l'exemple du corps, et que maintenant on prenne l'ordinateur, c'est juste un degré de complexité qu'on a additionné, mais l'élément est toujours sous-tendu par une conception très normative du vivant. En histoire des sciences, en fait, Pichot a même écrit un autre livre encore très intéressant qui s'appelle « L'histoire de la notion de vie ». Dans lequel il passe en revue les théories sur la vie, depuis l'Antiquité jusqu'à la biologie moderne, et il essaie de restituer la signification qu'ont eu ces théories dans le contexte des connaissances, mais surtout dans le contexte de l'époque où elles ont été formulées. Par exemple, dans la période moderne, il étudie les théories de Lamarck, de Claude Bernard, et des fondateurs du darwinisme. D'ailleurs, il dit qu'il faudrait plutôt appeler ça le Weissmannisme, puisque ça a été terriblement inspiré par Weissmann, qui a théorisé le darwinisme. Car avant Weissmann, Darwin, par exemple, il était totalement d'accord avec la théorie de l'évolution spontanée de la vie. Hein, alors que Weissmann, lui, va essayer de démontrer qu'il n'y a pas d'hérédité spontanée. D'hérédité due à un apport des sociétés sur le vivant lui-même. Pichot, lui, il essaye de réévaluer tous ses rôles et va réhabiliter largement Lamarck et relativiser beaucoup l'apport du second, notamment en débarrassant la biologie de toutes les légendes qui ont été construites autour de Darwin.
Et quelles légendes en fait ?
Bah, par exemple, concernant Lamarck, il va remettre en lumière le projet de Lamarck sur la fondation de la biologie en montrant que Lamarck avait comme projet de dire que c'était bien des phénomènes physiques qui étaient à l'origine des êtres vivants. Donc pour notre ami Pichot, c'est évidemment Lamarck qui a construit la théorie de l'évolution. Darwin n'a fait qu'établir quelques-uns des mécanismes dans le but de démentir les créations spéciales qu'avaient à l'époque les créationnistes. D'où, selon le titre de Pichot, comment est-ce que Darwin a inventé de l'origine des espèces et de la sélection naturelle à travers l'idée de la préservation des races favorisées dans le combat pour la vie. Très souvent, dans le titre original de Darwin, on ne parle plus des races, on parle des espèces, alors que le titre original, c'est bien la race. Pichot va se montrer donc très critique sur l'histoire de la biologie, son origine, mais surtout sur son enseignement et sa présentation au grand public, à cause du nombre d'erreurs, de falsifications que les biologistes ont instaurées, et même des historiens, hein, dans les prises de position très ambiguës qu'ont eu des biologistes sur le racisme, l'eugénisme, ou encore sur les manipulations biologiques. Pour Pichot, la biologie moderne est dans une impasse théorique qu'elle essaye de masquer à travers des opérations médiatiques. Ah, on a découvert le gène de ceci, on a découvert le gène de cela. Alors que la théorie du néo-darwinisme, qui incorpore la biologie moléculaire de Francis Crick notamment, a eu une tentative, en fait, comme essayer d'en faire une sorte de machine. Donc on en est toujours dans une analogie mécaniste, et c'est évidemment une conception du vivant très 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 critiquable, qui, faute de mieux, permet évidemment de faire passer ça auprès du grand public. Mais en même temps, on instaure auprès du grand public une idéologie de l'évolution qui consisterait à faire croire qu'on ne peut appréhender l'évolution qu'à travers deux thèmes, soit la création, soit l'évolution darwinienne. Or évidemment, cette conception ne reconnaît ni la spécificité des êtres vivants par rapport aux machines, et d'après Pichot, évidemment, on n'en sortira absolument rien.
Et puis en plus, une idéologie où tu as le supérieur, enfin il y a une sélection du meilleur. Donc c'est
tout à fait, aussi... ça rétablit une sorte de hiérarchie naturelle. Et puis il y a surtout beaucoup de confusion avec tous les effets d'annonce qu'on a pu faire dans les différents travaux. Il faut bien penser quand même que notre ami André Pichot s'était présenté en témoin en faveur de René Riesel lorsqu'il y a eu le procès contre les organismes génétiquement modifiés qui avaient balayé notamment le riz transgénique dans lequel René Riesel était condamné pour avoir été faucheur de marguerite. Et donc même Pichot s'est inséré là-dedans. Il participait également à la revue Esprit et il a fait pas mal de choses très intéressantes. Il faut à tout prix connaître André Pichot qui est un des autres un historien, les plus compétents sur le domaine. Alors par contre, c'est extrêmement fouillé, c'est pas toujours très facile à lire.
Il faut prendre le temps de le lire.
Il faut prendre le temps de le lire, mais ce sont des ouvrages de base, parce que c'est une épistémologie de la science, même si je trouve, même parfois, moi, très 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 gentil par rapport au néo-darwinisme.
Alors en fait, tout ceci nous amène à nous intéresser dans l'évolution à ce qu'on appelle, ce qui fonde un peu aussi, qui participe à l'évolution, le gène. Donc on parle même, d'ailleurs, de gène égoïste.
Oui, c'est le fameux livre de Dawkins de 76 qui a été surtout célèbre à partir des années 80. En fait, interrogeant les mécanismes de la sélection sexuelle et de la parentèle, Dawkins va aborder une approche très mécanisme de la transmission et de la sélection des gènes, en notant, par exemple, qu'il existait des comportements altruistes qui seraient aussi le fruit d'évolution. En fait, on retrouve là l'idée d'un égoïsme des gènes. Le vivant serait fondamentalement égoïste, il penserait à lui-même et à se reproduire, parce que c'est ce que font les gènes, qui ne se reproduisent pas, au demeurant, qui se répliquent, mais pour Dawkins, la réplication et la reproduction, c'est la même chose. Et il essaye de transmettre au grand public l'idée que les gènes égoïstes vont être au fondement de la pensée. Alors ça c'est un peu bloqué par rapport au public parce que c'est une idée quand même relativement complexe et surtout il y a pas mal de gens qui sont restés sceptiques devant lequel la sélection naturelle pourrait engendrer à partir de l'égoïsme des mécanismes altruistes. En fait le vrai problème c'est que ce que Dawkins appelle un gène c'est un élément de réplication et c'est un élément de réplication qui subit la sélection naturelle d'après lui. Donc forcément il induit à travers le gène cette idée que la sélection naturelle existe. C'est une grossière tentative pour essayer d'associer la théorie d'information génétique qui pose des problèmes à cause du hasard qu'il y a dedans et la théorie de néo-darwinisme qui veut que la sélection soit la sélection des meilleurs gènes. C'est à travers cette tentative-là qu'on en déduit qu'effectivement, l'histoire du monde n'est que l'histoire des gènes immortels, se résumant finalement l'absolue quantité des comportements animal et humain. On va s'apercevoir évidemment que la question centrale, c'est...
Finalement, qu'est-ce que le gène ?
Eh oui, qu'est-ce que le gène ? Et là, on retrouve encore notre ami Pichot qui, dans sa notion du gène, va nous expliquer qu'on ne sait pas du tout ce que c'est qu'un gène. Le gène est tantôt qualifié comme un morceau d'ADN, ce qui simplifie la chose, mais évidemment, quand ça ne marche plus comme morceau d'ADN, on va dire que c'est plusieurs morceaux d'ADN qui s'associent, il y a même des polygènes, et on a une sorte de concept qui nous dit que le gène a un rôle. Or, il y a des gènes dont on sait qu'ils sont neutres. Donc, c'est très compliqué tout ça. La définition du gène n'existe pas. Selon les auteurs, elle diffère. Et évidemment, le mot gène permet d'y mettre un peu tout et n'importe quoi.
Oui, tu fais référence à l'histoire de la notion du gène d'André Pichot.
D'André Pichot.
D'accord, en 99. Et en fait, si on veut aller plus loin, il y a aussi Jean-Jacques Cupiec qui parle même du vivant comme anarchique.
Oui, dans son livre de 2019, « Et si le vivant était anarchique », notre ami Cupiec continue à interroger le déterminisme absolu des gènes, il l'a déjà fait dans d'autres ouvrages dont on va parler un petit peu après, en exposant que la théorie que propose l'information génétique ne pourrait pas être aussi déterministe que ce qu'on voudrait. Lui, il propose une théorie beaucoup plus probabiliste. En fait, le problème de l'expression des gènes, c'est qu'ils ne s'expriment pas partout. On sait très bien que les gènes de la peau ne vont pas exprimer la même chose que les gènes du foie, et que même ce qu'on appelle les gènes totipotents ou les cellules souches ne sont pas si faciles que ça à faire qu'on puisse déterminer des éléments qui nous intéressent en soi. Donc, on n'est pas du tout dans la théorie mendélienne simple, on se retrouve au contraire dans une dimension beaucoup plus statistique, beaucoup plus probabiliste, et non pas déterministe absolu. Donc on comprend l'importance de... Il insiste sur l'importance de comprendre comment fonctionne l'expression des gènes, en passant assez vite sur le rôle de la machinerie cellulaire, et puis surtout il a la préoccupation de se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une information génétique. Car ici elle est résolument liée au hasard, selon lui, et donc à la sélection naturelle.
Et il a aussi fait un livre avec Pierre Sonigeau, Ni Dieu, ni gêne.
Oui, alors là aussi, Ni Dieu, ni gêne, c'est encore un appel à l'anarchie. On s'aperçoit bien qu'en essayant de proposer une nouvelle théorie d'hérédité, Pierre Sonigeau et notre ami Jean-Jacques Kupiec vont essayer de dévoiler ce que c'est que la réalité des génétiques. Donc là, c'est plutôt un essai sur les malentendus d'évolution. Évidemment, il essaye d'en faire un essai iconoclaste pour essayer d'apparaître. Mais comme il est chercheur et qu'il est quand même obligé de se baser sur des éléments de recherche, il va aussi travailler dans son laboratoire à essayer de prouver une grande partie de ce qu'il a développé. Il a séquencé et cloné principalement des virus et il s'est consacré à l'étude des protéases qui vont jouer sur le virus et qui vont effectivement permettre des expressions plus ou moins différentes. Alors tout ce travail qui est censé tester ce déterminisme des gènes, puisque le déterminisme a toujours dominé en biologie, et la biologie moléculaire, évidemment, a permis de concevoir ça comme une sorte d'ordre, le génome étant une sorte d'ordre qui va diriger les cellules. C'est ça qu'il remet en cause. Pour lui, la génétique oscille entre ses origines pour un caractère, un gène va déterminer un caractère du vivant, et en fait une version beaucoup plus affaiblie de nos jours qu'on appelle l'épigénétique, puisqu'on sait que le déterminisme des gènes est tempéré par des tas d'autres facteurs, dont notamment l'environnement, comme le pensait Lamarck. Les biologistes ont pris entre ces deux versions contradictoires de la génétique et essayent de les faire coexister. Sauf que tout ça, ça continue à se faire dans le cadre d'une idéologie infaillible, celle de l'information génétique. Alors que le désordre est partout, c'est ce que nous découvrent Pierre Sonigo et Jean-Jacques Kupiec en montrant que la part anarchique du vivant est quelque chose d'important. Puisque, alors ce qu'il appelle la part anarchique, c'est un peu comme quand on parle de l'anarchie des molécules.
C'est-à-dire oui, que ça n'a pas la même connotation.
Ça n'a pas une connotation du tout d'émancipation sociale et de monde libertaire. On est ici au contraire dans la variation aléatoire qui provoquerait du désordre. Et de ce désordre, en fait, viendrait une sorte d'ordre généré par une sorte de sélection naturelle interne. Il n'y a pas d'ordre biologique intrinsèque qui serait à la base du vivant. Ils ne sont pas des sociétés centralisées, les êtres vivants, mais ce sont des cellules qui vont obéir à des ordres du génome ou d'environnement à travers aussi leurs propres interactions. Donc on a affaire à des communautés de cellules plus ou moins anarchistes qui vont être actrices de leur destin grâce au hasard. Grâce au hasard qu'elles vont utiliser plus ou moins à leur profit. Alors évidemment, on a chez Kupiec toute une interrogation sur le problème de la différenciation cellulaire. Et c'est vrai que quand on lit Kupiec, on a tendance à être presque séduit, parce qu'on voit que sa critique d'un déterminisme absolu, à travers la contingence, serait parfaitement explicable. Le problème, c'est que ce paradigme du déterminisme génétique, il y a déjà pas mal de temps qu'il a été abandonné totalement en biologie, quasiment depuis les années 70, et que de retrouver sa critique dans les années 80, c'est un peu suivre et continuer à essayer de faire la mouche du coche sur un coche qui est malheureusement maintenant largement dépassé par les trains. Ce paradigme dominant était un paradigme dominant. On avait la génétique et on voyait une cellule à l'autre ces éléments-là. Et Pierre Sonigo et surtout Kupiec, hein, dans son dernier livre, nous montre qu'il n'y a pas une instruction tout à fait du gène, que cette instruction envoie quelque chose qui va déclencher une cascade d'événements, des événements moléculaires, qui vont aboutir à une réponse spécifique. Et c'est cette réponse la plus efficace, grâce à la sélection naturelle, qui sera celle dont on peut parler. On s'aperçoit aussi que les molécules, d'après lui, ne peuvent se lier qu'avec d'autres molécules, d'une manière absolument obligatoire. Donc là, il pense probablement à l'architecture des molécules. On avait cette idée-là. Maintenant, on est passé plutôt à la biologie quantique, dans laquelle on pense que c'est plutôt la résonance des molécules que leur forme qui compte. Donc il est, à mon avis, encore un petit peu juste. Mais ces éléments-là nous permettent de réavoir en français les premières critiques de ce déterminisme génétique, et puis d'insister évidemment sur l'importance que on peut avoir avec les articles actuels sur la différenciation cellulaire. Pour lui davantage, son expression, c'est plutôt une expression du vivant probabiliste à travers une expression stochastique des gènes.
C'est-à-dire stochastique, finalement.
C'est-à-dire que c'est du hasard, mais reconstruit à travers des éléments plus ou moins obligatoires.
Mmh. Alors, si on continue sur notre voyage, hein, on a le gène généreux maintenant. Alors, avant, on était égoïste, maintenant, il est généreux.
Voilà, parce que dans tous les cas, la biologie, depuis tous les débuts, essaie toujours de renouer avec l'histoire naturelle pour essayer de s'interroger sur l'eugénisme de la théorie. On retrouve, par exemple, toujours la base de la concurrence dans le darwinisme habituel, dans le néo-darwinisme. Or, cette base concurrentielle, évidemment, ne correspond pas avec la réalité de l'association cellulaire. Aussi, on se pose beaucoup de questions sur la réalité de l'histoire naturelle, et notamment sur la coopération. Alors on voit revenir sans arrêt des théories de la coopération, on en parlera dans la troisième partie. Mais on a dès le départ quelque chose qui diffère entre les gènes. C'est que si les gènes paraissent d'ordre immortel, bien qu'en fait la réplication peut très bien s'arrêter, on a aussi posé beaucoup de questions sur ce que c'était que de vivre. Or vivre, c'est évidemment se reproduire et ne pas mourir. C'est ce que nous écrit Jean-Jacques Ruffier.
Jacques Ruffier, en
86, dans Le sexe et la mort. C'est une synthèse des connaissances qu'on a de la biologie, depuis les abeilles jusqu'à l'être humain, dans lequel il essaye de nous faire comprendre l'importance que peut avoir la constitution du vivant comme quelque chose d'extraordinairement mélangé, avec la part belle de tout un ensemble d'échanges internes et d'échanges développés d'une manière de plus en plus forte. Il faut aussi comprendre que la notion de vie n'a plus rien de mystérieux. Au départ, elle était désignée un peu, comme pour Bakounine par exemple, comme un peu chez Nietzsche, par le mouvement, l'action, le devenir. Car le vivant est d'abord ce qui se transforme. Ça, c'est Lamarck qui a développé ça. Il a compris que le vivant n'était pas une essence, mais une existence. On retrouverait du Sartre là-dedans. Car c'est une construction historique, le vivant. Une construction qui a une histoire naturelle. En fait, on voit que ces mécanismes qui apparaissent dans leur régularité, dans leur fonctionnement, réplication, code génétique, sont bien les produits d'une histoire évolutive, dans laquelle la contingence a évidemment son sens le plus important. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans mon livre sur la biodiversité amoureuse, pour la critique essentielle du darwinisme eugéniste, qui propose que l'évolution serait juste une invasion des gènes. Et il faut bien comprendre que le vivant existe et se transforme, en effet, sous l'effet des recombinaisons génétiques. Mais ce qu'on appelle des adaptations, ce ne sont pas des combinaisons nouvelles de gènes plus favorables, c'est tout à fait des hasards. Ce sont des changements contingents qui répondent provisoirement, évidemment, à l'environnement dans lequel ils vont être efficaces, mais tout ça parce que les corps sont d'abord pris dans des réseaux écologiques auxquels ils répondent. Voilà pourquoi il faut faire un dépassement du néo-darwinisme à travers un paradigme comme par exemple l'écologie évolutive. J'ai écrit un manifeste pour l'écologie évolutive pour essayer de faire comprendre à quel point l'évolution réside dans ces cascades d'interactions, dans l'écologie des espèces, beaucoup plus que dans une série de gènes qui seraient des bons gènes ou des mauvais gènes.
Ou des mauvais gènes, oui.
Thank you.
cérébrale nous interprétait la gigounette de la rat, parce que l'écologie est entrée comme une ribambelle dans la science. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science sans liberté. Et à l'occasion des 40 ans de Radio Libertaire, nous visitons quelques livres qui ont été importants dans les remises en cause de la biologie. Nous voilà revenus sur les ondes de Radio Libertaire et dans cette émission de Science en Liberté pour déloger les idéologies qui se cachent derrière les avancées de la biologie. Nous ne pourrons pas tout comprendre, tout analyser, mais c'est avec de grandes circonspections qu'il faut étudier les interprétations génétiques, scientifiques, et surtout celles qui s'appliquent aux mœurs animales.
Oui, parce qu'on a pu voir à quel point ces mœurs animales étaient auparavant copiées sur les idées patriarcales que les humains se faisaient du monde.
Mais c'est l'anniversaire de Radio Libertaire. Alors Thierry, en feuilletant les pages de quelques livres scientifiques, nous avons été frappés par l'énumération de poncifs idéologiques dans les textes apparemment scientifiques. Par exemple, il y a quelques années encore, le thème des sexualités animales était absent. On considérait la vie des animaux à travers le seul filtre de l'hétéronormalité et du couple, à l'image de la sexualité inventée par les religions et les obligations morales.
Et oui, s'il y en a, on peut même dire que c'est à travers l'idée reproductive de la sexualité que la sexualité a vraiment été étudiée. On a longtemps confondu les deux. Il y a une sorte d'impossibilité dans le raisonnement scientifique, parce qu'il était inféodé aux ordres puritains des hiérarques. En fait, quand Bruce Bagmill, par exemple, a révélé en 1999 combien les animaux présentaient de mœurs libérées et de mœurs homosexuelles par rapport à nos courtes opinions sur la sexualité, cela a comme ouvert une nouvelle porte en biologie. Ça a démontré combien la morale pudibonde altérait la recherche biologique. Et en plus de 10 ans, on a commencé à travailler sur cette thématique-là. Et puis, heureusement, il y a eu la révélation des habitudes sexuelles, surtout des habitudes sexuelles complètement déjantées chez les bonobos. Ça a obligé à remettre les chercheurs à mettre le focus sur une réalité de la vie sexuelle et qui était bien différente de ce que la répression religieuse et sexuelle des humains imposait comme vision à notre monde.
Et effectivement, les bonobos pratiquaient toutes les formes d'étreinte. On a admis la plurisexualité des animaux.
Oui, mais encore très difficilement. Hein. 99, c'est le livre de Bagmill. Dans les années 2000, on continuait à travailler encore sur cette thématique de la sexualité d'un point de vue très reproducteur, avec toujours le gène comme l'alpha et l'oméga de l'avenir du monde. Mon livre sur le conflit des sexes en 2006 a souligné combien les théories de l'époque s'acharnaient à légitimer les mœurs humaines des années 50. Et c'était un des gros problèmes. Hein. Dans ce livre, La guerre des sexes chez les animaux, il a fallu que j'explique l'importance qu'avait le conflit sexuel dans la compréhension du monde, tout en essayant de dégager du paradigme darwinien. Car c'est l'un des grands problèmes, c'était de concevoir que le sexe n'est pas réduit à la reproduction et que la reproduction était bien différente du sexe.
Oui, tu as traité en 2006 dans ton livre La guerre des sexes chez les animaux, qui fut une petite bombe théorique sur le sujet. Et puis peu à peu, d'autres chercheurs se sont infiltrés dans ce débat.
Alors ce fut plutôt une bombinette qu'une vraie bombe, parce que si ça a bouleversé pas mal de choses en science, le commun des mortels ne savait pas encore quelles étaient ces batailles scientifiques qui agitaient le monde. En fait, au début, il s'agissait surtout de s'étonner sur la diversité des sexualités animales. Mais il y avait déjà très peu de chercheurs qui avaient osé faire autre chose que d'écrire des exemples animaux, souvent à travers des filtres particuliers.
Oui, il y a par exemple Fleur d'Auget dans Animaux Homo, Histoire naturelle de l'homosexualité, qui a soulevé des éléments différents.
Tout à fait. Elle a commencé à faire les références en 2018 sur ce qu'avait commencé à faire Bagmill, toujours pour essayer de travailler sur cette idée des mœurs scientifiques. Alors, c'est une éthologue de formation, et comme elle pensait que l'homosexualité était encore très tabou en 2018, il faut rappeler qu'en France, elle a quand même été autorisée déculpabilisée, on va dire, et surtout avec des lois qui l'autorisaient, dès 1982. Mais il a fallu attendre 2018 pour qu'on commence à en parler chez des animaux. Elle a relevé qu'on en parlait chez plus de 500 espèces, et elle a travaillé sur l'idée qu'il y avait des jeux de séduction, des câlins, des caresses, et sur le thème de la fidélité. Bref, que la sexualité animale n'était pas du tout forcément liée vers la reproduction. Elle raconte par exemple les pseudocopulations chez des lézards unisexuels, les comportements plutôt aberrants chez l'autruche, sur la femelle du hérisson à grandes oreilles. Elle essaye d'établir une idée que les standards patriarcaux ne sont pas forcément plus facilement observables. Mais en même temps, elle cherche à trouver quelles sont les théories qui permettraient d'expliquer ça, théories généralement quand même associées au darwinisme, et elle a beaucoup de mal, en essayant de nous faire découvrir les multiples facettes de la sexualité, elle a beaucoup de mal à essayer de comprendre que c'est pas tout à fait tourné vers la reproduction. Mais elle commence à en sortir une, on va dire une autre idée de l'évolution des espèces. En fait, il faut bien comprendre que toutes les observations des mœurs animales étranges ne manquent pas dans la littérature scientifique. Pendant très longtemps, on les connaissait, depuis l'Antiquité, on découvrait ça. On a supposé tout un ensemble d'éléments. Mais les interprétations de l'époque restaient quand même plongées dans une certaine théorie non évolutive du vivant, une théorie plutôt créationniste en quelque sorte. Aussi, ces remarques s'imposaient souvent comme des éléments de réflexion morale. Dans les sciences dites naturelles, chacun défendant d'un côté la morale qui lui était bon d'apprendre, donc les traditionnalistes affichant que c'était des mœurs bestiales et les plus avancés montrant que c'était des mœurs qui existaient dans la nature et qu'on ne pouvait donc pas affirmer que par exemple l'homosexualité était contre nature. Mais sans réussir à dégager le sexe de la reproduction, et puis en mélangeant des activités reproductrices aussi au milieu de ça, comme par exemple la parthénogenèse de nos lézards, elle ne s'appesantit pas vraiment sur les explications traditionnelles qui ont embarrassé la biologie des espèces. Par exemple, elle ne comprend pas en quoi le fait de gêner la reproduction par la sexualité peut être une avancée, alors que la diversité des mœurs animales ne constitue pas des anomalies, simples anomalies.
Et d'ailleurs, oui, il y a aussi un autre livre qui aborde ces problématiques, c'est le livre sur Sexual Conflict d'Ankhuizenov.
Oui, parce qu'Ankhuizenov, dès 2005, ont déposé l'idée du conflit sexuel comme étant quelque chose de structurant dans le système moderne des sciences. Comprendre que dans la biologie évolutive, on ne pouvait pas tout comprendre sans le conflit sexuel. Pour eux, le conflit sexuel, ça reste un conflit. C'est-à-dire une bataille des mâles contre les femelles, dont d'ailleurs le corps des femelles peut même être l'objet. Ce conflit sexuel, c'est celui de la mante religieuse qui va dévorer le mâle, donc elle va empêcher le mâle de se reproduire, ou celui du lion, par exemple, qui va dévorer les lionceaux de la lionne pour la rendre à nouveau fertile. On voit très bien que ça joue sur la reproduction, donc ça joue sur la sexualité, car dans ce conflit sexuel interviennent aussi ce que moi j'ai préféré nommer le tir à la corde évolutif, c'est-à-dire l'idée que la séduction des espèces était forcément contradictoire à cause d'un intérêt très très différencié.
Oui, tu as développé ces éléments depuis un moment dans tes livres, et notamment la biodiversité amoureuse, où en fait tu abordes une grande diversité des pratiques sexuelles.
Oui, en montrant que la biodiversité est d'abord amoureuse, c'est-à-dire que la diversité des comportements sexuels intervient dans la biodiversité générale, et que la biodiversité générale, dans sa structure écologique, va aussi peser sur les idées qu'on se fait de la sexualité. C'est pour ça qu'on arrive assez facilement à comprendre que l'évolution est queer. Dès le départ, l'évolution est homosexuelle, par exemple, chez les espèces qui sont hermaphrodites, où l'échange de sperme est quelque chose d'important. Mais on reste dans la reproduction. Alors qu'il faut aussi passer à autre chose, à savoir que les mécanismes du plaisir sont fondamentaux dans le mécanisme évolutif.
Oui, je rappelle, pour les auditeurs et auditrices intéressés, Histoire naturelle du plaisir amoureux, quand même. Et puis tous les sexes sont dans la nature qui viennent sortir, une variété de sexualité.
Oui, tous les sexes sont dans la nature. Pourquoi ? Parce que le sexe et la reproduction sont indépendants entre eux et vont favoriser cette biodiversité. Il faut essayer de comprendre que cette écologie queer va définir la réalité d'évolution du monde sans avoir un déterminisme absolu des mâles ou des femelles, sans avoir une obligation des rôles sociaux, et au contraire que tout ça repose sur une histoire des interactions, de la cascade des interactions où chaque espèce se retrouve entremêlée. Ce qui explique par exemple la différence sexuelle entre les bonobos et les chimpanzés à cause de leur écologie, non pas à cause de leur gène.
Toujours dans la perspective queer, il y a un livre, il me semble, qui aborde ces éléments aussi, en 2015.
Le livre de Gandhi, en 2015, voilà. Oui, qui s'appelle « Écologie queer, nature, sexualité et hétérotopie », tente, alors c'est un géographe qui a écrit ce livre à la base, mais il tente de comprendre un peu pourquoi la richesse écologique, en fait, va développer des mécanismes de formation communautaire des groupes. Alors c'est une formulation assez complexe qu'il essaye d'établir, et il essaye de comprendre que c'est principalement à cause d'un déclin particulier, à cause de l'abandon qui a suivi l'histoire des croissances écologiques, que petit à petit on a pris d'autres éléments, d'autres événements pour comprendre cela. L'idée c'est d'essayer d'élargir la portée conceptuelle et matérielle de deux champs. D'un côté, le domaine de l'écologie politique, et de l'autre côté, les recherches dites de post-humanistes, qui essayent de montrer les conceptions de plus en plus complexes, mais croissantes en même temps, au sein de la science et de l'écologie elle-même. Donc l'écologie queer, d'après lui, serait une sorte de critique de l'homologation des sexualités hétéronormées, ainsi que de la façon d'habiter la vie urbaine. On est plutôt dans l'idée que le capitalisme industriel a cassé l'écologie humaine, et il lui essaye de développer la primauté du vivant sur la science, pour reconnaître comme ça qu'il y a une séparation totalement irrémédiable entre l'être et le savoir. Mais cette question de la coopération intervient forcément également chez les humains, petit à petit, puisque cette coopération s'est développée contre la concurrence, en théorie. Donc on retrouve dans ce que notre ami Pichot appelait même un radotage, l'idée que la concurrence, il faut la médiatiser par la coopération. On a d'un côté l'égoïsme de Dawkins, le gène généreux de Rougarden, qui lui serait altruiste, l'altruisme contre l'égoïsme. Alors que ce ne sont pas du tout deux concepts symétriques qui s'opposent l'un à l'autre, mais bien au contraire deux concepts qui essaient de fonder la chose. En fait, depuis Kropotkin, tous les scientifiques rabâchent sans arrêt ce thème que la concurrence serait médiatisée ou du moins modulée par la coopération.
Et hey, Kropotkin, l'entraide, un facteur de l'évolution.
Oui, ah. Le livre de Kropotkin, qui date pourtant de 1902, est un livre absolument essentiel, car il essaie de comprendre les limites des mécanismes darwiniens de sélection naturelle. Donc pour lui, la compétition pour l'existence et la survie des plus aptes, qui seraient les principes de l'évolution darwinienne, ne sont pas totalement vrais. Au contraire, Kropotkin va combattre ce discours sur la concurrence en entrant sur le terrain du darwinisme pour montrer que l'entraide, ce qu'il appelle l'entraide, c'est-à-dire les mécanismes de solidarité et d'altruisme dans les populations animales, sont des facteurs d'évolution au moins aussi importants que la compétition. Donc c'est un concept qui est très important dans la théorie anarchiste. Évidemment, les biologistes le balayent souvent en pensant que c'est un contexte secondaire, c'est-à-dire que d'abord on serait égoïste et ensuite on pourrait devenir coopératif. Mais il faut bien voir que Kropotkin, en développant ça, a aussi développé un terme d'économie politique, en développant ce concept de l'échange réciproque et volontaire des ressources et des services au profit de tout. Et les communautés animales se structuraient à travers cela.
Un livre récemment, en 2019, L'entraide, l'autre loi de la jungle, par Chapelle et Servigne, a abordé ces éléments.
En effet, parce que dans l'idée de cette arène impitoyable de gladiateurs que serait le monde naturel, que nous serions tous soumis à la loi du plus fort, à la loi de la jungle, Chapelle et Servigne essaient de nous montrer, avec émerveillement d'ailleurs, que dans cette jungle, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de coopération. Alors ce sont évidemment les mêmes sujets que ceux de Kropotkin, on ne peut pas dire que c'est vraiment changé, ça fait quand même partie de ce que notre ami Pichot appelle le radotage épuisant de la biologie.
On a besoin de se rappeler les choses.
On a besoin de comprendre que la solidarité ou la bonté ont un sens particulier. Alors lui, ils font une sorte d'analyse transdisciplinaire de l'ethnologie, en passant par la psychologie et un petit peu la biologie. Et Pablo Servigne et Gauthier Chapelle vont proposer d'explorer ce continent qu'ils pensent oublier, celui de la découverte de ce mécanisme de l'entraide et de la coopération. Alors c'est pas du tout un mécanisme oublié dans la réalité, ce sont des théories qui reviennent sans arrêt auprès des biologistes. On peut penser par exemple à Novak, qui parle de la coopération comme élément essentiel dans l'évolution des bactéries, etc. Et donc on retrouve toujours ce même combat qui oppose l'un à l'autre deux thèmes qui sont de toute façon inopérants. L'altruisme étant par définition défini comme étant celui qui va pas se reproduire ou qui va sacrifier sa propre reproduction, donc ses propres gènes, aux autres, alors qu'évidemment l'égoïsme, lui, va pas sacrifier ses gènes et se reproduire. Il est forcément gagnant dans l'évolution, alors que l'altruisme est forcément perdant. Donc tant qu'on pose la question dans ces termes-là, évidemment, on ne peut rien comprendre de la réalité des réseaux écologiques.
Et c'est vrai que la complexité n'est pas simple, et du coup on peut même évoquer un livre là en 2020 de Philippe Pelletier, Noir et vert, anarchie et écologie, une histoire croisée.
Oui, parce que Philippe Pelletier nous montre bien que l'écologie politique, qui découle en théorie de l'écologie scientifique, et l'anarchie ont évidemment des associations incroyables entre eux. On s'aperçoit par exemple que chez beaucoup d'écologistes, les appels libertaires sont présents. On a souvent des appels anti-autoritaires, la volonté d'éducation populaire. Même si évidemment chez l'écologiste, ça reste à travers l'hypothèse qu'il faudra conserver des structures d'État ou des structures politiques qui permettraient de juguler toujours ces arrière-mondes dont nous parle le capitalisme. C'est pas très très clair à chaque fois l'écologie. On ne sait pas trop si c'est une économie de la poubelle ou si c'est au contraire une vraie volonté de modifier le monde. Alors Philippe Pelletier analyse ça d'une manière tout à fait intéressante et en montrant ce que c'est que la réalité des luttes anarchistes qui ont effectivement développé le communisme libertaire, qui ont tenté de développer tout un ensemble de réussites qui sont totalement passées sous silence par l'histoire commune, puisque l'histoire est l'histoire des dominants, hein. On nous fait presque croire que l'école libre et gratuite, ça a été inventé après la Commune de Paris, alors que c'est bien entendu la Commune de Paris qui en a proposé les bases, et on en parlait déjà pendant la Révolution française. Le monde libertaire qui impose ces éléments-là va petit à petit finir par exister dans le monde réel, hein. Le mariage libre, l'éducation des enfants, tout ça ce sont des grandes réussites de l'anarchie et de la pensée libertaire dans notre monde. Mais évidemment, on s'est souvent emparé aussi de ces manières et de ces formes de lutte, l'occupation des lieux, etc. On retrouve par exemple chez des écologistes l'idée qu'en occupant des terrains, en essayant d'empêcher que des travaux se fassent, on va pouvoir peser sur l'avenir du monde. Et Philippe Pelletier nous montre que l'écologisme déguise derrière ces luttes qui sont directement inspirées des méthodes libertaires et des méthodes anarchistes, déguise une lutte qui est en fait plutôt une lutte contre pour essayer d'améliorer en quelque sorte les échanges du capitalisme. Et donc on s'aperçoit qu'on a d'un côté un écologiste qui va être fortement étatisé, fortement politique, avec les Verts qui vont essayer de s'emparer de cet outil politique pour essayer d'imposer leurs idées de l'amélioration d'un capitalisme qui se deviendrait vert et donc autoproducteur en quelque sorte, hein, ce qu'on appelle le développement durable, qui va infester totalement les idées de l'anarchie en s'en emparant pour essayer de montrer que c'est comme ça qu'il faut générer les choses. Mais en fait, c'est très différent. Donc si ça peut être séduisant pour un libertaire, évidemment, les idées écologistes, elles ne sont pas séduisantes forcément dans l'objectif qu'ils poursuivent, qui est un objectif d'amélioration du capitalisme. Alors que Philippe Pelletier nous montre bien qu'il faut critiquer l'écologie à travers toutes les contributions écologistes qui se passent. Il s'interroge sur les origines aussi du mouvement écologiste qui puise quand même ses racines dans l'extrême droite, dans une grande partie du retour à la nature de la pensée hitlérienne ou de d'autres pensées du 19e siècle. Et en s'interrogeant sur comment Pétain, par exemple, a inventé les groupes pour soi-disant protéger la Terre, et en proposer à l'intérieur de ça tout un ensemble de traditions, d'éléments traditionnels de droite, l'écologie commet aussi un impair. Et donc elle se retrouve coincée entre des idées de droite sur la protection de la terre et sur les méchants vilains qui veulent casser tout ça, et sur l'amélioration du capitalisme, qu'il faut quand même bien améliorer, tout en ne voyant pas trop les problèmes sociaux qu'instaure le capitalisme, comme le travail des enfants, qui est inéluctable dans un monde capitaliste, et bien entendu le thème de la marchandise. Alors Philippe Pelletier critique ces éléments-là. En revanche, il est un peu plus masqué. Je pense qu'il dit que le productivisme a un rôle effectivement très important dans la société capitaliste, qui ne produit pas pour produire, mais qui produit pour vendre. Et donc, en critiquant ça, il touche un petit peu ce qu'avait fait par exemple Prisel dans Catastrophisme et Soumission durable, dans lequel il parle du fait que en instaurant l'idée d'un effondrement sans arrêt, d'une collapsologie, d'un capitalisme qui va vers la mort, on instaure également, évidemment, la possibilité d'améliorer ce système-là.
Et de faire avec quelque part aussi.
Et le catastrophisme est une méthode quasi religieuse pour dire, attendez, il ne faut pas qu'on aille par là parce que ça va mal, pour faire un appel en fait au peuple. Alors ça peut être révélateur d'une réflexion, d'une interrogation nouvelle, mais ça peut aussi être révélateur d'un besoin de taper sur le monde marchand. Philippe Pelletier commet peut-être aussi une erreur quand il brocarde Greta Thunberg parce qu'il la qualifie de passionnerat du climat. C'est vrai, Greta Thunberg, elle applique en quelque sorte les règles qu'elle a apprises dans sa vie d'écolière au monde, en disant, mais si le monde va vers ça, mon Dieu, il faut vraiment tout arrêter. C'est pas possible de ne pas continuer comme ça. En effet, l'effet de serre, par exemple, est devenu un point important. Et dans son livre, le livre de Ploy en 2000, L'effet de serre, science ou religion du 21e siècle, il nous montre très bien comment l'effet de serre est un effet réel, avec une capacité des activités humaines à modifier le climat mondial, Et il nous dit encore qu'il ne faut pas forcément attendre l'effondrement capitaliste, qu'il va bien falloir qu'on apprécie comment les entreprises font de la désinformation et comment des scientifiques essayent de lutter contre les intox concernant l'effet de serre, qui est un effet évidemment réel. Alors il ne se pose pas, lui, notre ami Francis Poix, en accusateur, mais il énonce les faits en regardant comment les choses se passent pour se rendre compte que petit à petit, il faut réussir à endiguer évidemment cette idée productiviste du monde, parce que ce mode de vie, alors qu'il qualifie d'occidental, est un mode de vie énergivore. Bien sûr, on consomme plus de carbone ici que nous en consommons au Ghana. Et donc pour réduire mondialement l'effet de serre, son idée est relativement simple, c'est quand même d'arriver à quelque chose qui soit la décroissance, une idée qui ne passionne pas l'opinion, d'autant que la décroissance, ça existe déjà chez les pauvres, on va dire, hein. C'est un peu comme les gestes barrières, hein. Depuis très très longtemps, on a effectivement des groupes humains qui se regardent l'un en face de l'autre d'une manière totalement ambivalente. On appelle ça la lutte des classes, et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'écologie du monde, l'effet de serre et autre chose sans tenir compte de la lutte de classe.
Ecstasy of Gold par Metallica.
La prolifération des laboratoires, machines et manipulations en tout genre pour les sciences et les techniques ont autorisé l'idée d'une nette séparation entre la liberté de l'homme d'une part et le déterminisme intangible de la nature. Et même lorsque Bakounine critique la science de son temps, c'est entre autres parce qu'elle n'apparaît pas suffisamment matérialiste. qu'elle laisse encore trop de part à la métaphysique et à des fantaisies, et non pas à des faits. Sauf que, en science, les faits ne sont pas accessibles aussi facilement en eux-mêmes. La Terre tourne autour du Soleil, et pourtant, le fait que nous constatons tous les jours est que le Soleil paraît se lever et se coucher. L'interprétation est donc nécessaire pour produire un fait scientifique. Aussi, la science n'est jamais une activité neutre, et il faut dégager le fait scientifique derrière son apparence. En outre, les chercheurs restent engoncés dans les préjugés de leur temps, qui s'interrogent souvent même, qui n'interrogent même pas. La vie sociale est pour eux une sorte d'évidence, et les coutumes capitalistes passent pour des réalités d'évidence. Depuis le début, la science doit démasquer les partis pris des traditions et pour ne pas sombrer dans la duperie des idéologies réactionnaires, sociales et politiques. Voilà pourquoi la science se doit d'être polémique, elle se doit d'être curieuse de ce qui semble s'affirmer à la conviction des regards, et elle doit surtout dénoncer les chercheurs qui répètent toutes ces idées préconçues et annonnent des préjugés. Car la science ne fonctionne pas comme un grand fleuve tranquille, nourri par ses affluents. Elle a besoin au contraire de ruptures épistémologiques. Il lui faut des remises en cause radicales. Là où les croyances naturelles semblent imposer un ordre universel, l'histoire des sciences elle-même est produite par des valeurs dominantes. Et la pensée dominante, c'est elle qui en écrit le récit. Comme la société marchande ne fournit pas qu'un seul cadre, mais un cadre aliéné de la raison, cette société impose ses propres explications, celles qui sont les plus faciles, celles qui vont être les plus réactionnaires, et celles qui empêchent d'éclaircir le monde. C'est pas un hasard si on parle de réaction, c'est que cette réaction est une réaction contre le vivant, contre l'idée de la complexité du vivant et contre le recadrage d'une écologie qui imposerait ces cascades d'interactions à la réalité de la construction de l'évolution du monde. Alors, loin de constituer une sorte de force mystérieuse de la revanche des pauvres, l'anarchie de la pensée reste une obligation de la réflexion. C'est en libertaire, ouvert au monde, qu'il faut dissiper les anomalies et balayer les idéologies qui accompagnent et souvent enferment la science dans des coutumes admises. Développer une véritable science populaire qui rejette les idéologies marchandes et les hiérarchies reste une tâche difficile. Mais la science véritable est à ce prix. Ainsi pourra être aperçu tout ce qui fait la merveille du vivant et l'émancipation du monde.
Voilà, nous espérons que cet anniversaire de Radio Libertaire vous aura convaincu de confronter les idées au-delà des idéologies. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Ledé, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur Some Days in Russia par Otavo Yo. Car même quand on est dans la prison de Petrograd, on peut se rebeller en chantant.
Выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. vos pavés. Вирус и косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного.